BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements et pas que, vous allez voir, comme tous les jours. Ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers et puis des expériences nouvelles. Et aujourd'hui, on va vendre aux enchères. Vous allez voir que ça peut être la solution pour arriver à faire comprendre aux vendeurs le prix que vaut son bien à vendre. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et je vous le disais, aujourd'hui, on ne va pas parler de nos logements, on va aussi parler de nos bureaux. Où il en est, ce marché de l'immobilier de bureau? On en parlera dans le débat du jour, mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Carole Gouix, mandataire du réseau Expert IMO. Bonjour Carole.
Oui, bonjour Marie.
Et je le disais en préambule, on va vendre aux enchères avec vous. Et alors, des enchères un peu particulières, hein, on n'est pas sur des enchères classiques, mais c'est une méthode de vente qui est certes pas hyper répandue, mais quand on a des difficultés à faire comprendre aux vendeurs la valeur réelle de son bien, ça peut aider à débloquer des situations, Carole.
Oui, c'est ça. Alors, ça part d'un constat, il y a deux constats à faire avant de parler de la vente interactive, hein, puisque c'est son nom. Le premier, c'est que le marché, il a beaucoup changé. On est sur un marché où il y a beaucoup de biens à vendre, donc il y a plus de volume, il y a moins d'acheteurs, il y a plus de négociations et surtout, il y a plus d'hésitation. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus lent et hésitant qu'avant. Il y a un deuxième constat, c'est que il y a une corrélation entre le prix d'un bien et le temps qui passe. Plus un bien est présent sur le marché, plus il se déprécie quelque part. On dit souvent, c'est le premier mois d'un bien qui est sa meilleure fenêtre de tir pour son prix. Donc, la stratégie aujourd'hui qui consiste à afficher au-dessus du prix marché pour baisser ensuite régulièrement, c'est souvent contre-productif. Donc, et puis, en fait, à force de baisser un prix, on ne crée pas du désir, on crée plutôt du doute. Donc, il faut s'adapter à ce marché qui a changé. Et c'est pour ça que maintenant, on peut faire appel à la vente interactive.
C'est pas une vente aux enchères. Oui, Carole, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quoi la vente interactive? Parce que je dis vente aux enchères, ok, j'ai résumé grossièrement. Mais en réalité, si je dis vente interactive, on va perdre tout le monde. Donc, essayez de nous expliquer concrètement en quoi ça consiste, ces ventes interactives.
J'entends. Donc, la vente interactive, c'est pas une vente aux enchères au sens spectaculaire ou judiciaire du terme. C'est plutôt un appel d'offres encadré, transparent pour les acquéreurs et les vendeurs, et surtout avec des acquéreurs qualifiés. L'important et la grande différence avec une vente aux enchères, c'est que le vendeur n'est pas obligé d'accepter les offres. Et ça change tout.
Et c'est surtout que c'est alors en plus c'est pas voilà, on n'est pas tous devant effectivement avec le marteau qui attend et obligé de surenchérir etc. Là il y a vraiment un truc, on est en ligne derrière notre ordinateur, donc peut-être que la pression elle est peut-être un peu moindre. Effectivement le vendeur est pas obligé d'accepter, mais comme je le disais c'est quand même un outil hyper intéressant parce qu'effectivement on est souvent face à un allongement des délais de vente, particulièrement en ce moment en fait, parce qu'on a toujours cette espèce de blocage des vendeurs qui ont du mal à comprendre. Pourquoi ça ne se répand pas plus, ces ventes interactives? On en avait beaucoup parlé, je me souviens, au moment de la crise inflationniste de 2022, où les vendeurs ont eu beaucoup de mal quand même à accepter la hausse des taux d'intérêt qui devait provoquer nécessairement une baisse de leurs tarifs. Je ne comprends pas pourquoi finalement, ce n'est pas si courant que ça.
Eh ben, moi aussi, je me pose la question parce que moi, depuis 2022, je pratique cette vente interactive qui donne de bons résultats. Alors, je pense, il y a deux choses. C'est que c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail, hein, honnêtement. On a beaucoup de flux acquéreurs qui arrivent. Si on fait bien son travail, il faut faire la découverte acquéreur. Donc, ça prend plus de temps. Les vendeurs pensent qu'ils vont brader leur prix. Donc, il y a une pédagogie à avoir auprès des vendeurs. Il y a des agents immobiliers qui s'y sont essayés et il faut s'apprivoiser un petit peu le discours. Donc, aujourd'hui, il faut à la fois bien expliquer aux acquéreurs, bien expliquer aux vendeurs. Ça va venir, mais ça prend du temps. Voilà.
Bah en tout cas, c'est gentil à vous de nous en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, on en parle de temps en temps, pas assez souvent, je pense, de ces ventes interactives, de ces enchères particulières. Parce qu'effectivement, c'est vrai que votre travail de mandataire, d'agent immobilier est d'autant plus compliqué quand les taux bougent comme ils bougent en ce moment. Et c'est vraiment le cas depuis 2022. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. On espère que ça va s'assagir. Mais enfin, voilà, amis vendeurs, renseignez-vous sur ces ventes interactives. Si vous avez du mal à croire les évaluations que font les agents immobiliers et les mandataires de la valeur de votre bien, vous verrez que finalement, souvent, ils ne se trompent pas vraiment. Et le temps, c'est de l'argent. Et laisser un bien trop longtemps à vendre, bah, c'est la garantie de vendre bah, à prix bradé, pour le coup. Merci beaucoup, Carole. Carole Gouix, mandataire du réseau Expert Immo. N'hésitez pas à nous écrire si, comme Carole, vous avez des témoignages terrain à nous apporter. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'Immo, le débat.
Et à mes côtés, Brice de Germay, directeur général délégué BNP Paribas Real Estate. Je l'ai dit super bien et je suis trop fière de moi. Bonjour Brice.
Bonjour Marie, merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie, merci de l'avoir accepté. Également à mes côtés, Aymeric Sévestre, directeur investissement France chez Cushman & Wakefield. Vous pouvez pas vous avoir des noms français à chaque...
C'est plus simple.
J'ai une petite pensée à Laurent Demeure, parce que alors Laurent Demeure, le patron de Coldwell Banker Europa Realty, à chaque fois qu'il vient, j'essaie de prendre l'accent et j'ai énormément de mal, donc je suis désolée si j'écorche le nom de vos...
Parfait.
Bon bah super, top. Vous êtes venus tous les deux sur ce plateau pour qu'on parle d'un segment dont je parle assez peu finalement dans les experts de l'IMO et pourtant qui est passionnant, qui est celui de l'immobilier d'entreprise et en particulier des bureaux. Et il s'est quand même passé 2-3 trucs ces dernières années, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé sur le résidentiel. D'abord, je voudrais tous les trois qu'on puisse essayer de faire un topo sur où est-ce qu'il en est cet immobilier de bureau aujourd'hui. On a entendu tout et son contraire, la fin du bureau avec les télétravails, et puis finalement tout le monde est de retour, et puis finalement pas. Aujourd'hui, c'est quoi la demande de bureaux en France, et a fortiori en Ile-de-France, puisqu'on sait que c'est quand même l'endroit où on investit le plus. Messieurs, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer.
Bon, je peux démarrer avec plaisir.
Eh ben, allez-y, Aymeric.
Alors, le bureau va mieux. Je pense que c'est le constat qu'on peut faire d'ores et déjà. Si on regarde très rapidement les chiffres en 2025, c'est 7 milliards d'euros transactés en France en bureau, à comparer à 5 milliards à peu près en 2024. Donc c'est une croissance d'à peu près 32%. Donc ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on a plus de transactions en bureau. Et ça démontre quoi? Ça démontre que probablement, on est quand même un peu sur la fin de l'office bashing. Le désamour
du
bureau.
Alors voilà, vous l'appelez carrément l'office bashing.
Qu'on a subi depuis maintenant quelques temps. Et la conséquence de ça, c'est un retour des investisseurs aujourd'hui sur la classe d'actifs bureau.
Vous voyez vraiment un retour? Parce que moi, les derniers chiffres que j'ai vus sur le premier trimestre de 2026 ne sont pas exceptionnels, non? Je dis des bêtises?
Alors, il faut peut-être, pour compléter ce que dit Aymeric, avoir l'aspect de l'allocation globale des investisseurs. Ouais. Les investisseurs, ils avaient grosso modo un patrimoine composé à 60-70% de bureaux. Après la crise de 2022, en fait, le départ de tout ça, c'est 2020, hein, le télétravail, plus
le Covid. Office, ouais.
Voilà, c'est cette grande allocation, globalement, qui s'est déplacée de 60-70 vers les investisseurs, vont cibler aujourd'hui plutôt du 30-40%. Donc, c'est plutôt, nous, ce qu'on observe, et je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, sur la fin de ce mouvement de déplacement, qui consiste à nous dire, on a réalloué, on a diversifié, peut-être est-on allé parfois un peu trop loin, et donc il est bon de revenir sur cette classe d'actifs qui a des bonnes choses à offrir pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier.
Alors, vous parlez quand même tous les deux, effectivement, de ce moment où ça s'apaise par rapport aux turbulences qu'on a connues en post-Covid, et puis ça s'est poursuivi avec la crise inflationniste. Mais enfin, il y a quand même un vrai sujet sur la résilience d'autres segments que les grands investisseurs avaient abandonnés, on va le dire comme ça, hein. Je pense notamment aux résidentiels. Bon, ils sont pas vraiment revenus, hein, on va pas se mentir. Mais enfin, quand même, ils sont un petit peu revenus. Mais effectivement, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on aura toujours besoin de bureaux quand on sait qu'on aura toujours besoin de logements, quand on sait que sur la logistique, on a vu les besoins exponentiels, sur tout ce qui est commerce de nécessité, évidemment. Enfin, on a vu une résilience sur des actifs qui étaient peut-être un peu moins rentables fut un temps par rapport aux bureaux, mais qui sont plus solides aujourd'hui, quoi.
Je pense que ça renvoie à la qualité du sous-jacent. Clairement, ce que nous dit la crise depuis 2020, encore une fois, et avec ses étapes successives, c'est qu'on aura toujours besoin de bureaux. Il faut mesurer le mouvement qui a été opéré entre les années pré-Covid et le marché dans lequel on évolue aujourd'hui. Si je prends l'exemple du marché de l'Île-de-France, c'était 2,2-2,3 millions de mètres carrés consommés par les entreprises chaque année. on est depuis un an à deux ans, on est sur du 1,6 million, 1,7 million. Donc, on est vraiment descendu d'un cran. Maintenant, à la question de savoir si les entreprises vont continuer à consommer du bureau, en fait, le sous-jacent de l'immobilier locatif bureau, c'est le marché de l'emploi. Donc, regarder le marché de l'emploi, c'est envisager la façon dont ce marché du bureau va évoluer. Alors, bien sûr, il y a l'IA, bien sûr, il y a les modes de travail qui continuent à évoluer, mais ce qu'on voit, c'est que ces deux courbes sont intimement liées. Et le marché du travail va continuer à produire des emplois, à créer des emplois. En tout cas, c'est les dernières perspectives qui ont été publiées sur le sujet.
Ça va quand même un petit peu moins bien, Aymeric, quand même, sur l'emploi, parce que je rebondis sur ce que disait Brice, mais enfin, sur l'emploi. Alors, on n'est pas... moi, j'ai grandi avec des taux de chômage stratosphériques, donc effectivement, aujourd'hui, on est quand même plus très très loin du plein emploi, quand même, il faut le reconnaître. Mais enfin, ça va un petit peu moins bien qu'il y a quelques années.
Alors, c'est malheureusement le cas, en effet, et ça a un impact, en effet, directement sur la consommation de mètres carrés de bureaux. C'est ce que vient de dire Brice. Maintenant, le bureau sera toujours utile aux entreprises. Maintenant, ce qu'on constate depuis, en effet, début 2025 et en ce début d'année 2026, c'est que la consommation est en nette baisse, 1,6 million en 2025. Le premier trimestre 2026 est une baisse d'environ 15%.
Ah, et pas top, hein.
Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Quand on analyse un peu ces différents chiffres, on s'aperçoit qu'en plus de 5 000 m2, en effet, on a une baisse assez significative. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est très compliqué de prendre une décision stratégique pour votre entreprise, une décision qui est une décision aussi d'investissement. Ça coûte de l'argent de déménager. Dans un contexte économique qui est quand même incertain, et dans un contexte politique qui est depuis l'été 2025 extrêmement instable. En revanche, quand on regarde les transactions en moins de 5000 m2, elles sont aujourd'hui en progression sur le marché, pas sur l'ensemble des secteurs, mais sur des secteurs à la fois parisiens et très étonnamment plutôt en dehors du quartier central des affaires que dans le quartier central des affaires, mais également sur des marchés comme la défense qui sont et qui devient un véritable marché de report pour les entreprises parisiennes.
Enfin, vous me disiez quand même, parce que alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est vrai que souvent on échange en amont avec vos équipes, et alors je lisais un chiffre dans ce qu'on m'a envoyé, il y a jusqu'à 38% de taux de vacances à la défense.
Alors,
je l'ai mis en gras sur ma feuille, j'ai fait wow. Parce que, alors la moyenne elle est plutôt autour de 10-11%, mais est-ce qu'il y a des secteurs précis où on peut avoir des bureaux complètement vides à ce stade quand même?
Alors oui, il y a des secteurs où il y a ce type de taux de vacances, clairement. C'est, ça, je pense que c'est le grand mouvement de polarisation vers des pôles d'affaires, j'allais dire, les plus structurés. La défense fait partie clairement des pôles d'affaires les plus structurés. Aujourd'hui c'est 20%. Des mètres carrés consommés en Île-de-France. C'est considérable, hein, à l'échelle du secteur de la défense.
Bien sûr.
Le 38%, je pense que c'est plutôt le péri-défense, peut-être, et encore, il faudrait vraiment le circonscrire à quelques centaines de mètres carrés, parce qu'aujourd'hui, ça se joue à quelques centaines de mètres carrés. On est dans le secteur éligible ou on n'y est pas. La défense aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Aymeric, nous on constate depuis maintenant 2 à 3 ans que c'est au contraire un secteur qui se comporte très bien dans un environnement plus large du péri-défense qui, se comporte plutôt difficilement. On a des propriétaires qui ont divisé leurs tours au lieu de louer des grands ensembles de 20-30 000, des plus petits sous-ensembles. Et on a surtout, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant, c'est un vrai laboratoire, parce que les propriétaires, laboratoire commercial, j'allais dire, parce que les propriétaires doivent trouver des solutions pour remplir leurs immeubles. Donc on a des propriétaires qui font des grandes marketing suites, qui offrent des services comme on n'en voit pas ailleurs en Île-de-France, qui vont faire du plug and play sur certains étages, qui vont dire c'est tout refait au 10e, c'est en état d'usage au 7e. Voilà. Donc on a vraiment cette agilité. Et par-dessus ça, vous avez l'établissement public qui va déployer entre l'automne 25 et la mi-28 un verdissement de toute la dalle. Donc objectivement, pour nos utilisateurs et aussi pour les investisseurs, parce que je pense qu'on peut le ramener au marché de l'investissement quand on va à l'étranger. Les investisseurs qui aujourd'hui veulent sortir de Paris en termes de feuille de route d'acquisition considèrent très positivement le marché de la défense.
Mais vous sentez qu'il y a quand même quelque chose, parce que moi je me rappelle de la défense, on avait quand même, je crois, alors je sais pas si on en est toujours à ce niveau-là, mais on avait quand même un taux de vacances qui était 3 fois plus important à la défense qu'à Paris, quartier central des affaires. Enfin, il y avait quand même...
En effet, mais c'est historiquement le cas à la défense. Quand on développe une opération à la défense, on ne développe pas 3 000 m2, on développe 30 000 ou 50 000.
C'est ça, donc, le sujet. C'est la taille. Mais oui.
En définitive, sur le taux de vacances sur le marché de la défense. Après, ce qui est vraiment important et ce qu'on constate encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, la défense, il y a quelques années, la défense était le marché pour les grands, des grandes entreprises, les grands comptes
corporels. Les grandes banques, les.
C'est encore le cas aujourd'hui. Mais pas que. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant à la défense, c'est qu'aujourd'hui, on attire tout type d'entreprise, tout type d'industrie. Donc on a un marché qui est beaucoup plus hétérogène qu'auparavant, avec des immeubles qui sont des immeubles de grande qualité, à des conditions financières qui sont, par rapport aux conditions financières qu'on peut avoir sur le QCR, ouais, inférieures de l'ordre de 30 à 50% à une station de RER.
Ouais,
et
non,
donc,
non,
c'est la vraie
ça.
Force de la défense.
C'est ça, le prix. Mais après, il y a aussi cette adaptation de la défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me souviens de tous les projets avec une mixité d'usages, donc où il y aura du bureau, du logement, de l'hôtel, etc. Quand ça a commencé, on le regardait un peu comme ça. Mais en fait, c'était structurel. Parce que qu'est-ce qui fait aussi la force de Paris intramuros? C'est aussi ça. Et ce qui a fait peut-être la faiblesse de la défense, est-ce que c'est ça qui est en train de se passer et cette transition qu'on est en train d'opérer depuis un paquet d'années quand même à la défense?
C'est complètement ça. Après, elle est contrainte. On va pas, faut dire les choses. Depuis 2020, depuis 2022, ouais, elle est contrainte par les équilibres de marché. Mais aujourd'hui, la défense a pris le problème à bras le corps. Et c'est pas une vue de l'esprit. Quand on dit 21% des mètres carrés consommés en Île-de-France le sont, la défense, c'est un chiffre.
Ouais, bien sûr.
C'est pas du souhait. On souhaite pas que ça se passe. Ça se passe en ce moment. Et donc, les utilisateurs ont bien compris qu'il se passait des choses, que c'était déjà mesurable, je parle ne serait-ce que les transports, l'arrivée du RER, qui ont été des vrais game changers. Ouais. Et il y a en plus un mouvement en cours d'amélioration de la qualité de vie pour les utilisateurs. Donc, je dirais, tout à l'heure, Mick parlait de bureau bashing, il y a eu quand même un peu de défense bashing. Il y a eu un peu de grande tour bashing.
J'aime pas quand vous me regardez bashing comme ça. Moi, j'aime bien les tours.
La réalité, c'est que la qualité au travail, à la défense, elle s'est considérablement améliorée.
Oui, mais qu'elle a dû, et vous le disiez, le faire à marche forcée aussi, puisqu'on parle en fait de, il y aura peut-être pas moins de bureaux, mais du bureau autrement, plus petit individuellement, et donc cette réorganisation, puisque quand on parle de la défense, vous le disiez, on parle de grands espaces, etc. Ce qui fait que cette adaptation, elle a été un peu obligatoire, non, aujourd'hui, enfin, à ce stade, c'est...
C'est tout à fait le cas, mais justement, on est en train de parler d'une réussite. Alors, elle n'est pas complètement terminée.
Mais avec du patrimoine qui s'est dévalorisé, du coup?
Alors, vous avez du patrimoine qui a été repositionné, et c'est ça, c'est important. Donc, on va restructurer, en fait, les actifs, en fait, qui sont les actifs, les tours de première génération, de deuxième génération. Et puis, vous avez aussi des nouvelles opérations qui sont arrivées à la Défense. Et aujourd'hui, il faut quand même souligner tout le travail qui a été fait par Paris La Défense. Et aujourd'hui, en effet, il est bien plus agréable de venir travailler La Défense que il y a 10 ans, c'est certain. Et pour avoir fait l'expérience du travail à La Défense, c'est plutôt agréable et extrêmement efficace. Et donc, tout ce travail est en cours, il n'est pas terminé, mais aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits.
Messieurs, j'ai quand même envie de vous parler, on a parlé de la défense, parlons quand même aussi de Paris intramuros, parce que je lisais donc du coup les derniers chiffres, je crois qu'on est au-delà des 5% de vacances à Paris, alors que moi, j'ai commencé, on était à 2-3%, il n'y avait pas de vacances. Est-ce que ce n'est pas un indicateur avancé de quelque chose quand même sur le climat ambiant? Vous parliez de la perspective de la corrélation entre les chiffres de l'emploi et ce marché de l'immobilier de bureau. Le contexte géopolitique, on l'a abordé rapidement, mais enfin, c'est un sujet aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas des petits indicateurs avancés que quelque chose est en train de se produire?
Alors, c'est au moins l'indicateur que depuis quelques années maintenant, la production de bureaux, elle est ultra centrée dans Paris intramuros. Donc c'est vrai que depuis quelques années, et c'est aussi de ça dont bénéficie la défense aujourd'hui, mais pas que la défense, les acteurs de périphérie, le fait qu'on ne lance plus ou moins d'opérations de bureaux. Ce qui n'a pas été le cas dans Paris, précisément, ouais, parce qu'il y avait cette dynamique, ce taux de vacances qui était extrêmement faible. Aussi vite produisait-on un immeuble qu'il était loué même avant même d'être livré. Aujourd'hui, il y a eu deux étapes. Il y a eu l'étape, on est revenu à un taux d'équilibre autour de 5%, et il est vrai qu'à l'heure où on se parle, le taux de vacances dans Paris, c'est autour de 8%.
Si je parle là, parce que QCA, on est à peu près à un peu plus de 5%, et tout Paris, on est à 8%.
À peu près, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement de hausse de la vacance. Maintenant, Paris comporte un certain nombre de géographies. On a des géographies à l'intérieur de Paris intramuros qui fonctionnent encore extrêmement bien. Le QCA fonctionne bien. Certains arrondissements centraux, on en parlait tout à l'heure. Donc tout n'est pas remis en question. C'est vrai qu'il y a une forme de rééquilibrage, probablement. Mais on a des perspectives qui restent bonnes, voire très bonnes sur les immeubles parisiens.
Pour rebondir, hein, quand on regarde la consommation en fait de mètres carrés dans Paris intramuros, on a des secteurs aujourd'hui qui sont gagnants au premier trimestre.
Ouais.
Par exemple, 14e et 15e arrondissement, 12e et 13e, le centre de Paris également. Et pourquoi? Parce qu'on va trouver en fait des opérations qui sont neuves ou restructurées, de grande qualité, qui vont répondre également aux besoins de centralité. On a la chance d'être dans une ville magnifique, mais qui est assez petite, mais qui est extrêmement bien desservie. On a un réseau de transport en commun qui est assez exceptionnel, et donc on peut être un peu partout dans Paris extrêmement bien desservi. Et donc les utilisateurs aujourd'hui, qui sont quand même aussi dans une recherche de maîtrise de coûts, n'ont pas beaucoup d'options. Soit ils sont dans le quartier des affaires.
C'est que c'était trop cher, en fait. C'est ça, le sujet. C'est
alors, on a probablement perdu une certaine échelle de valeur sur les loyers. Et qu'aujourd'hui, en effet, dans le quartier des affaires, beaucoup d'opérations sont à plus de 1 000 euros du mètre carré par an. Certaines, pour certaines, c'est tout à fait légitime. Il y a des opérations exceptionnelles et qui méritent de présenter des loyers à 1 200 euros, 1 300, voire 1 400 ou 1 500. Mais ce ne sont que quelques opérations. Toutes les opérations ne peuvent pas prétendre à ces loyers. Et donc, les utilisateurs qui font attention à leurs coûts se sont penchés sur d'autres arrondissements parisiens ou sur le marché de la Défense pour trouver des immeubles tout aussi compétitifs, tout aussi bien desservis, voilà, à des conditions financières bien plus intéressantes.
Mais ça veut dire globalement, messieurs, qu'on va bon an mal an vers un rééquilibrage au niveau des prix aussi, et que là, en l'occurrence... Parce que moi, je me souviens, au tout début, on nous disait « Vous inquiétez pas, et puis de toute façon, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. » La réalité, elle est là, quand même.
Non, mais clairement, il y a une forme de... Certains immeubles vont rester éligibles au loyer qu'on évoque. À 1000, 1100, 1200, peut-être même 1300, 1400, on a des perspectives de cette nature. Mais clairement, c'est la loi de l'offre et la demande. Aujourd'hui, on le constate déjà, c'est une des raisons qui nous font penser qu'il y a du potentiel pour les marchés de périphérie, la Défense, mais pas que, le Croissant Ouest, voire la Deuxième Couronne, qui se tient pas si mal que ça, bah précisément parce que les loyers ont augmenté, la pression à faire, elle a un petit peu diminué elle aussi, et donc il y a une forme de rééquilibrage en cours. Donc, on va continuer, pour ce qui est du marché parisien, à évoluer dans un contexte où les immeubles éligibles, les très beaux immeubles, on a pris l'habitude d'appeler ça les immeubles ultra prime, parce qu'on n'a plus de qualification.
Ultra méga prime.
On a une couche supplémentaire. C'est ce qui se passe dans les pays, dans les grandes capitales, à Londres notamment. On a cette gamme de produits un peu exceptionnels qui vont continuer à fonctionner. C'est vrai que pour le reste, le degré de compétition, le niveau de compétition, il a augmenté. Et donc potentiellement, en effet, sur des produits qui ne seront pas des produits parfaits ou bien placés, mais pas si bien placés, on aura probablement une baisse, ou en tout cas une évolution à la baisse d'un certain nombre de valeurs exigées.
Messieurs, il nous reste que 5 minutes et on a parlé que de Paris et de l'Île-de-France, et je sais que je vais me prendre des mails incendiaires. Alors forcément, je vais vous parler, juste pour terminer, je voudrais qu'on fasse un mot quand même sur les autres grandes métropoles françaises, parce qu'elles sont existantes, parce qu'il y a un tissu entrepreneurial, parce qu'en plus, là aussi, le Covid, il a changé la donne, et les différentes crises aussi. On en est où sur le dynamisme des grandes métropoles hors Île-de-France, en France, sur cet immobilier de bureau?
Alors, en ce qui concerne l'investissement, l'année 2025 sur la partie région était assez faible en définitive. Pourquoi ? Parce que on manquait probablement d'un réajustement en termes de prix.
Ouais. Voilà.
Et il y avait un décalage entre le réajustement qu'on a pu connaître en Île-de-France et celui des régions. C'est moins le cas maintenant, et depuis le début de l'année, on est, nous, chez Cushman, et probablement chez mon confrère aussi, beaucoup sollicités pour des futures cessions en région.
Ouais.
Et donc ça va venir, et bien sûr, alimenter et augmenter ce volume transactionnel sur les régions, sur les grandes métropoles régionales, que ça soit Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Lille, voilà, et Strasbourg. J'essaye de pas toutes les oublier, mais voilà, un peu partout en région.
Je vous enverrai les mails, vous inquiétez
Exactement.
Pas. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on est en fait, je veux pas conclure là-dessus quand même, parce que vous allez pas être content, mais est-ce que finalement 2026 sera pas l'année de l'atterrissage et donc des corrections en fait?
Les atterrissages en fait, les marchés de région réagissent en décalé par rapport à l'Île-de-France. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient sur la thématique investissement, les marchés d'Île-de-France sont en train de s'adapter, pour pas dire corriger, c'est une façon pudique.
Je le sais, j'ai bien vu. Hein.
C'est vrai qu'il y a ce temps de décalage avec les régions, mais la force des régions va rester là. C'est-à-dire que la force des régions, elle est de tout temps, mais elle a pris une dimension particulière après la crise du Covid, où les entreprises se sont mises à quitter les marchés d'Île-de-France pour aller sur des marchés de région qui, à la différence des marchés d'Île-de-France précisément, étaient très équilibrés en termes d'offres, de demandes. On développait un immeuble, il était loué, etc. Aujourd'hui, certains marchés de région, pas tous, rentrent un peu dans cette phase d'ajustement, précisément. Bah, on a un peu plus de vacances, on a un petit peu plus de choix. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu digérer. Mais le besoin, le désir même des entreprises d'être présentes en région n'est pas remis en question. Le besoin des investisseurs d'aller en région non plus. Simplement, le benchmark, le panel, il est un petit peu différent entre les marchés d'Île-de-France qui se sont réajustés, voire les marchés européens. Aujourd'hui, les investisseurs présents en région, nous, on est franco-français, on est dans notre approche aujourd'hui, mais la réalité, c'est que leur terrain de jeu, c'est l'Europe.
Ouais.
Et donc, évidemment, Lyon.
Il faut retrouver de la compétitivité.
Exactement. On peut être en compétition avec Dublin. Et le deuxième élément qui est important, c'est que, et dont peut-être les régions souffrent un petit peu aujourd'hui, c'est le retour au bureau. On n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai qu'on a produit quelques éléments concrets sur ce phénomène, qui est réel, d'abord par les Américains, qui ont été très extrêmes dans un sens.
Et pour revenir extrêmement dans l'autre.
Potentiellement, ouais. Entreprise par entreprise, complètement sur le modèle inverse. On voit bien que les Français vont pas faire complètement ce mouvement aussi brutal, mais on a des exemples aujourd'hui véritablement documentés et il est pas rare, voire fréquent, d'avoir des entreprises qui nous disent « on est allé un peu loin, on va réajuster » et donc on est en plus dans cette phase. Les régions ont bénéficié de cet aspect-là, donc c'est vrai que ça fait partie des éléments sur lesquels on a un petit degré d'instabilité. Quand tout ça, ce sera
stabilisé et qu'on aura atterri, en
exactement,
fait.
Ouais. Exactement.
Mais c'est ça le sujet, c'est la fameuse courbe en M d'occupation de nos bureaux, là où il n'y a pas grand monde le lundi parce que tout le monde est en télétravail, on revient le mardi, le mercredi c'est meet, c'est la journée des enfants, on revient le jeudi et puis il n'y a plus personne le vendredi.
Ça. Mais ça s'améliore, on le voit déjà au quotidien, tu viens de le dire Brice, il y a des grands groupes aujourd'hui qui sont en train de revoir la politique de télétravail. Et ça, c'est certain, et c'est en cours, sauf que ça prend toujours un peu plus de temps chez nous, si on doit comparer avec les États-Unis, par ouais. exemple. Mais la tendance, elle est là. Elle va être quand même de réduire le télétravail, ce qui aura un impact sur la consommation de mètres carrés de bureau.
Bien sûr.
Et j'ai envie de dire, on le voit aujourd'hui au quotidien, quand on prend les transports en commun, vous avez beaucoup plus de monde dans les transports en commun le vendredi, et le lundi, et le mercredi, ce qui était nettement moins le cas il y a 2 ans.
Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que je suis très favorable au télétravail. Non, je plaisante. Merci à tous les deux. Vous reviendrez et on reparlera de ça. Et parce que là, on a parlé des marchés au global, mais ça m'intéressera aussi de voir comment les entreprises s'adaptent justement. Parce qu'une fois qu'on aura défini quelle est la part de télétravail qu'il y a dans les entreprises, quelle est l'occupation du bureau, qu'est-ce que j'en fais de ce bureau, c'est toujours des sujets qui nous passionnent parce que ça nous concerne tous au bureau. Et ça me permettra de dire que l'open space, il faut que ça s'arrête. Merci à tous les deux.
Un grand plaisir.
Merci,
vous êtes
Marie.
D'accord avec moi, c'est ça? Merci à tous les deux. Brice de Germay, directeur général délégué BNP Paribas Real Estate. Aymeric Sévestre, directeur investissement France chez Cushman & Wakefield. Je crois que je m'en suis plutôt bien sorti là.
C'est parfait.
Entrée, sortie, parfaite. Allez, à demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.